Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Duplain et aujourd'hui pour cette deuxième édition du format de débat du Collimateur, le deuxième donc casquer la plume, même si on a un peu hésité.
On a décidé sur le...
Je ne sais pas si on a décidé, on n'en a pas parlé donc ça va rester le casquer la plume pour l'instant. On a eu des bonnes suggestions, Casus Belli c'était pas si mal, enfin bon maintenant c'est acté. Donc j'ai le plaisir de recevoir nos trois débatteurs que vous avez déjà entendu qui sont aussi trois think tankers, à savoir tout d'abord Rim Momtaz, consultant research fellow à l'IISS, l'International Institute of Strategic Studies. Bonjour et bienvenue à nouveau dans le podcast.
Bonjour.
Ensuite, Ulrike Frank, Senior Policy Fellow à l'ECFR, l'European Council on Foreign Relations. Bonjour Ulrike.
Bonjour.
Et enfin, Elie Tenenbaum, le directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Bonjour Elie.
Bonjour Alexandre.
J'ai fait un peu plus court cette fois sur les présentations, mais parce qu'il me semble que les auditeurs vous connaissent bien maintenant, en tout cas je pense pour RIM. J'en suis assez sûr pour Ulrike et j'ai vraiment aucun doute pour Elie, parce que si vous avez déjà écouté le podcast, il y a 30% de chances qu'Elie ait été présente, ce qui est toujours un plaisir. Alors, on est aujourd'hui réunis pour rediscuter, redébattre autour de deux articles qui tournent autour d'une question stratégique centrale, qui est à bien des égards la grande question pour la sécurité française et européenne et pour la géométrie des alliances contemporaines, qui est celle de, je veux dire, l'autonomie stratégique. Appelons ça comme ça pour reprendre un concept français, même s'il plaît vraiment pas à tout le monde, au sein de l'OTAN notamment, mais qui est donc fondamentalement la question de savoir si la France et l'Europe peuvent se défendre seules et sans les États-Unis, ce qui est une question posée avec d'autant plus d'acuité par le tour que prend en ce moment la campagne électorale américaine. Donc il ne s'agit pas de jouer aux apprentis sorciers ou aux devins du dimanche, ni aux sondeurs du dimanche d'ailleurs, mais il est manifeste que le spectre, très littéralement le spectre, parce que ça fait peur, d'une réélection de Donald Trump se précise. Et en tout cas, à l'heure où on enregistre cette émission, fin janvier, il se dirige tout droit vers l'investiture républicaine. Et ensuite, le système électoral américain étant ce qu'il est, tout est possible, mais aussi et surtout le pire. Donc. Or, on a désormais un peu d'expérience de ce qui se passe sur l'échiquier géostratégique mondial quand Donald Trump est élu, puisque ça a été, disons, un séisme assez monumental il y a 8 ans, qui a forcé tout le monde à repenser ses alliances et ses garanties de sécurité, notamment les pays de l'OTAN, devant l'hostilité de plus en plus manifeste de Donald Trump à l'égard de l'Alliance. Et ça a notamment redonné à l'époque de l'élan à un pilier européen de l'OTAN, voire à des espoirs d'Europe de la défense, avec l'idée qu'il allait quand même falloir réfléchir à ce qu'on pourrait faire sans les États-Unis, dans le cas où il partirait de l'OTAN, mais aussi plus largement face au fait que, manifestement, ça n'était pas un partenaire parfaitement fiable jusqu'à la fin des temps. Alors, évidemment, ensuite, tout le monde a respiré un grand coup avec l'élection de Joe Biden, d'autant plus qu'ensuite, la guerre en Ukraine a encore renforcé la centralité de l'OTAN et des États-Unis pour permettre aux Ukrainiens de tenir face à l'invasion russe. Mais le problème, s'il n'est pas certain, se repose manifestement, et il serait sans doute bon de réfléchir un peu en amont à toutes les éventualités suite à l'élection qui aura lieu dans quelques mois. D'où la question centrale, est-ce qu'on est prêt, et si oui, à quoi ? Donc pour y réfléchir, on va partir de deux articles, puisque c'est le propos de ce format, de prendre appui sur des papiers pour ensuite les discuter et en débattre. Alors le premier, ça va être un article de Daniel Fiot, qui s'appelle « The Turning Tide, an European Agenda for the NATO-Washington Summit », qui est un papier pour le Center for Security, Diplomacy and Strategy à la Brussels School of Governance. Je mettrai évidemment les liens dans la description de l'épisode. Et ensuite, un papier de Max Bergman, Europe needs a paradigm shift in how it supports Ukraine, pour le très gros think tank washingtonien, le CSIS, qui a été paru il y a quelques jours, mi-janvier 2024. Donc globalement, tous les deux tournent autour du fait qu'il faut se préparer à ça, en tout cas l'éventualité d'un retour de Donald Trump, et que ça passe par tout un tas de mesures qu'il faut prendre maintenant en Europe. Et on va évidemment en reparler parce que y a évidemment la philosophie et puis ensuite il y a les détails concrets. Mais j'aurais peut-être aimé commencer par un retour en arrière et par reparler un peu de ce choc de 2016-2017, qui en fait est peut-être moins 2017 que les années ensuite, parce que c'est allé crescendo, dont tout le monde se demande si on va donc être amené à le revivre. Alors, peut-être pour commencer, qu'est-ce que ça a frappé le plus durement en Europe, il y a 8 ans, cette élection de Donald Trump ? Et je vais me tourner naturellement vers Ulrike Frank, puisque...
parce que tu connais déjà la réponse.
Parce que je pense que vous êtes parfaitement placé pour nous parler de ce que ça a frappé le plus durement.
Oui, donc j'imagine que tu veux dire que ça a surtout frappé l'Allemagne. Mais est-ce que c'est vrai ? Parce qu'en fait, tu as raison dans la mesure où les Allemands étaient les plus choqués peut-être. Et a priori, ils auraient dû être ceux qui se réveillent le plus, tout simplement parce que les Allemands dépendent quand même énormément de la garantie de sécurité américaine. Bien entendu, toute l'Europe. C'est le cas pour toute l'Europe, mais les Allemands se basent sur ça plus que d'autres, je dirais. Et c'est vrai que l'élection de Donald Trump, enfin la première élection de Donald Trump, a été un choc assez violent. Et ça a quand même déclenché plusieurs choses. Donc toute la discussion sur l'autonomie stratégique ou alors la souveraineté européenne, comme les Allemands aiment bien l'appeler, c'était basé sur ça. Et les Allemands étaient beaucoup plus prêts à discuter ça qu'avant l'élection de Trump. Néanmoins, franchement, je crois que... Enfin, tu as dit que quand Joe Biden était élu, tout le monde a respiré un grand coup. Et à mon avis, pour les Allemands, c'était un peu trop grand. Parce que j'avais vraiment l'impression que les Allemands se sont dit « Ah, ok, donc ces 4 ans d'horreur sont finis. C'était difficile, mais bon, finalement, ça n'a pas détruit l'OTAN. Ça n'a quand même pas détruit l'Alliance Atlantique. Et là, encore, on a un vrai... américain-européen dans la Maison-Blanche et tout ce cauchemar est fini. Et ça, j'ai jamais vraiment compris cela parce que bien que j'aurais pas prédit pour de la vérité que Donald Trump revienne si rapidement et peut-être facilement à la Maison-Blanche, ce qui était quand même toujours clair, c'est que Joe Biden est le président américain le plus européen qu'on va avoir dans les décennies à venir. Donc, à mon avis, l'Allemagne et d'ailleurs l'Europe auraient vraiment dû se préparer depuis des années à une possibilité d'avoir un autre président dans la Maison Blanche qui est moins européen que Joe Biden. Et on l'a pas vraiment fait. Donc là, pour finir un peu, à mon avis, l'Europe est toujours pas préparée à un retour de Donald Trump. Et d'ailleurs non plus à un changement un peu plus profond de la politique américaine que je prévois de toute façon. Et l'Allemagne ne le sait surtout pas non plus parce que l'Allemagne se tourne toujours extrêmement vers les Américains. On a vu ça pendant les 2 dernières années, la guerre en Ukraine, toute la discussion sur les léopards, je peux en revenir, mais c'est très clair que pour les Allemands, c'est, ce qui compte, c'est Washington. Et donc, voilà, à la limite, on va encore se réveiller dans un cauchemar total auquel on n'est pas préparé.
Sur ce début extrêmement réjouissant, je vais maintenant céder la parole à Élise. Sur ce moment, sur ce réveil, entre guillemets, stratégique il y a quelques années, et sur ses conséquences.
Non, c'est sûr que le moment a été un choc, même si, et je pense que c'est d'abord important de le souligner, il y a une continuité derrière tout ce qu'on a dit dans la politique américaine, des messages, des signaux qui avaient été envoyés à l'Europe, depuis la fin des années Bush, sur toute la période Obama, les deux mandats, et qu'on retrouve d'une certaine manière sous Biden avec des formes très différentes, mais le moment, le quinquennat, les 4 années, le mandat Trump lui ont donné une visibilité et une forme particulièrement virulente, mais en fait, on a derrière une continuité sur le partage du fardeau, qui est d'ailleurs un sujet qui remonte même au-delà de ça, depuis le à minima le décrochage européen dans les années 90 sur les dividendes de la paix, sur les dépenses de défense, etc., avec une impression du côté américain que l'Europe finalement avait externalisé sa défense auprès des États-Unis. En fait, vous pouvez même remonter jusqu'au président Eisenhower qui soulignait le risque que Uncle Sam devienne Uncle Sucker, c'est-à-dire celui qui allait payer pour les autres simplement parce qu'il était plus riche et parce qu'il était prêt à le faire. Et donc il y a ce grief américain qui s'est exprimé de manière continue sous beaucoup de formes.
Et mais pendant longtemps, on était quand même dans le régime du bluff, aussi bien d'un bien côté sûr, que de l'autre. Et
mais les dernières années avant Trump avaient pris quand même une tournure de plus en plus forte. On se souvient par exemple du sommet de l'OTAN au Pays de Galles en 2014, où quand même les Américains avaient tapé du poing sur la table et les Allemands eux-mêmes avaient un petit peu tremblé, fait des annonces, et puis finalement les choses revenaient systématiquement à business as usual. La défense restait non prioritaire, fondamentalement l'impression c'était que les Américains seraient toujours là, et c'est le cas particulièrement pour l'Allemagne, mais pour tout un tas d'autres pays d'Europe centrale. Alors, entre l'Allemagne et les pays d'Europe orientale, il y a une différence, c'est que l'Allemagne fondamentalement ne se considérait pas comme menacée. Et par ailleurs, sa défense ou sa sécurité était largement considérée comme assurée par les Américains. Les pays d'Europe orientale ou centrale et orientale, Pologne inclus évidemment, se considéraient comme menacés, mais n'envisageaient pas de défense possible en dehors d'un soutien transatlantique. Mmh. Mais donc les deux, pour des raisons différentes, fondaient leur concept entièrement sur le principe d'une solidarité transatlantique américaine. C'est ça que Trump a vraiment remis en cause, c'est-à-dire que non seulement il a dit « ça suffit, vous ne payez pas assez », la logique du passager clandestin. Si vous lisez l'interview de Barack Obama par Jeffrey Goldberg en 2016... pour la fin de son mandat, Barack Obama parle du passager clandestin, du comportement de passager clandestin des Européens. Donc ça, c'est quelque chose qui est continu. En revanche, ce que Trump va introduire dans son mandat, c'est l'idée que peut-être la solidarité aura des limites. Sous-entendu, les Américains, jusqu'à présent, disaient « on n'est pas content du partage du fardeau, mais évidemment, s'il se passe quelque chose, on sera là ». Et là, tout d'un coup, Trump introduit cette interrogation sur la clause de l'article 5, etc. Et il donne des concrétisations de ça, avec évidemment des éructations habituelles contre l'OTAN, qui considère comme une structure vétuste, inadaptée à un certain nombre de problèmes, avec des gages sur, notamment vis-à-vis de l'Allemagne, qui va retirer une partie des troupes américaines en Allemagne, en considérant qu'il n'y a pas d'intérêt, et ce qui n'a pas mis à exécution finalement, mais ça avait été annoncé et déclaré, ce qui quand même changeait des choses assez fondamentales, y compris dans la culture stratégique allemande.
Bien que je crois que sur ça, Trump a tout simplement compris, ou quelqu'un leur a dit, que les troupes basées en Allemagne, c'est pas vraiment, ils sont pas vraiment là pour l'Allemagne. C'est surtout en fait Strategic Command pour les États-Unis.
Bien sûr.
Ils se trouvent en Allemagne pour des raisons historiques, mais c'est pas comme s'ils sont là pour défendre l'Allemagne contre qui que ce soit.
Mais ce qui pose toute la question, peut-être Rim va en dire un mot, du mandat, du premier mandat Trump et de ce que pourrait être un second mandat Trump par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a eu un premier mandat Trump qui a été particulièrement encadré au moins pendant 3 des 4 années par... Est-ce que c'est un état profond? Est-ce que c'est une administration compétente? Est-ce que c'est un certain nombre de hauts responsables qui se comportaient en responsabilité, mais qui ont finalement détricoté beaucoup des déclarations. Et donc on avait un président un petit peu en apesanteur qui tweetait, qui lançait beaucoup d'idées, et une administration qui temporisait beaucoup dans la mise en œuvre. Et c'est ça quand même la grande question, on va y venir je pense, du second mandat. Trump, c'est
est-ce qu'il reprendra là où il s'est arrêté?
Exactement. Et aujourd'hui, tous les signes montrent qu'il a d'une certaine manière tiré les leçons de son incapacité à mettre au pas l'administration et qu'il compte bien arriver s'il est élu. Et je pense qu'on fait beaucoup trop aujourd'hui de parti pris en disant que voilà, c'est le plus probable qu'il soit élu. Aujourd'hui, le plus probable, c'est qu'il ait la nomination républicaine. L'issue de l'élection, on n'en est quand même pas, on est quand même pas là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il arrive quand même beaucoup plus préparé à voilà, une
cette fois, il risque de ne pas perdre 3 ans avant de réussir à mettre le bazar. Voilà. Rémi Mamtaz, sur ça, et puis plus généralement sur cette idée que il y aurait une, dans le milieu stratégique américain, un ras-le-bol qui dépasserait Donald Trump par rapport à cette solidarité vis-à-vis des pays européens. Voilà. Où est-ce que, dans quelle mesure est-ce que, disons, le corps a suivi la tête depuis des années là-dessus, quoi?
Mais en fait, c'est ça la question qui, moi, me frappe énormément, c'est que malgré la proximité entre les Européens et les Américains depuis des décennies, on se rend compte qu'ils se connaissent très mal en réalité. C'est-à-dire que bon, moi, je suis américaine, j'habite en France, donc je suis entre les deux mondes, mais je suis frappée quand je suis à Washington de combien les gens qui sont aux affaires à Washington, en vrai, ne comprennent pas complètement comment les pays européens réfléchissent, abordent les questions stratégiques, quels sont leurs biais, quelles sont leurs vraies craintes, quelles sont leurs capacités, quelles sont leurs attentes des États-Unis. Et idem, en Europe, quand je suis dans les chancelleries européennes, il y a un manque de compréhension du processus de prise de décision aux États-Unis et à Washington qui, moi, me frappe énormément. Et de ça découle aussi une mécompréhension de où se trouve aujourd'hui le peuple américain et pourquoi est-ce que le peuple américain est en train de voter comme il est en train de voter. J'essaye pas de justifier ce que mes compatriotes font, mais à un moment, c'est vrai que, comme le disait Élie, cette question du ras-le-bol des Américains par rapport à la posture des Européens et au fait qu'ils n'en font pas assez pour leur propre sécurité, les Américains ne demandent pas aux Européens de protéger les États-Unis. Ils leur demandent de juste faire plus pour eux-mêmes. Le fait que ça se soit tellement mal compris et que ça dépasse, mais de loin, le phénomène Trump et l'écosystème Trump qui est très extrémiste. Mais moi, je peux vous dire avec beaucoup de clarté aujourd'hui, Ulrike en a parlé un peu, Joe Biden, en Europe, on aime un peu plaisanter sur son âge avancé. Moi, j'arrête pas de dire, heureusement que Joe Biden, avec ses 81 ans, était le président des États-Unis quand la Russie a envahi à nouveau l'Ukraine, parce que lui, il a la mémoire de la guerre froide chevillée au corps. Mais ce n'est pas le cas de la nouvelle génération des responsables.
Il a le réflexe européen. Hein.
Mais ce n'est pas le cas de la nouvelle génération des responsables démocrates. Je ne parle même pas du Parti républicain qui aujourd'hui a été complètement phagocyté par Trump. Mais juste si on regarde les responsables démocrates, ceux qui ont 50 ans, 55 ans et moins, ils n'ont pas cet attachement qui est vital et très important et très profond et très ancré pour l'Europe et sa sécurité. Ils traitent l'Europe comme d'autres alliés. Et ça, c'est quelque chose que les Européens ont beaucoup de mal à intégrer et ils devraient l'intégrer. Le seul qui l'a vraiment intégré, c'est le président français Emmanuel Macron, qui depuis 2018 parle de ça et dit en fait il y a un changement de paradigme aux États-Unis qui va au-delà de Trump, même s'il était face à Trump à ce moment-là. Bon, on peut évidemment dire que peut-être que le président Macron et la France ont des arrière-pensées qui sont un peu différentes et sont les héritiers d'une certaine école de pensée française. D'ailleurs, c'est le procès que leur font leurs partenaires européens. Il y a de ça. Mais ça
c'est nommément le gaullisme,
mais
néanmoins,
alors c'est vrai et ça en fait partie, mais ça ne veut pas dire que le propos est complètement disqualifié. Alors que qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018? Macron disait ça, c'est vrai que lui n'a pas su, même au niveau français, enclencher une vraie révolution industrielle pour s'armer et se réarmer en préparation à ce qui allait venir donc des États-Unis et aussi pour concrétiser cette question de autonomie stratégique. Et c'est vrai que les Européens ne l'ont pas aidé, ils n'ont pas voulu jouer le jeu. Et aujourd'hui même, c'est ce qui est très frappant, c'est que même face à une possibilité, on ne sait pas si ça va être le cas ou pas, on ne sait pas s'il est favori ou pas, c'est un peu encore trop tôt, même face à une possibilité d'un retour de Trump où là, il revient, donc pour répondre à la deuxième question.
Il revient, et cette fois, il est vraiment en colère.
Il est vraiment en colère. Il veut se venger. c'est le mot qu'il utilise. Il dit à chaque meeting, il y a une phrase, il dit « Pendant un petit moment, je veux être dictateur ».
Un jour.
Un jour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, il dit « Moi, je vais prendre ma vengeance contre tout le monde qui s'est érigé contre moi ». Et là, cette fois-ci, il ne va pas du tout s'entourer de gens qui sont issus du système, qu'ils soient républicains ou pas, et qui pourraient mettre des limites à ce qu'il veut réellement faire. Donc, Trump 2.0, ça va être, mais il va falloir prendre ses vitamines et venir au taf tous les jours, mais vraiment réveillé, parce que ça va balancer. Donc il faut se préparer à ça, mais même sans ça. C'est-à-dire que même si Biden est réélu pendant 4 ans, avec le Congrès tel qu'il est et la scène politique américaine telle qu'elle est, ça va être très difficile de continuer à avoir le soutien qu'on a eu depuis toutes ces années.
J'aime bien parce que maintenant, à chaque fois qu'on parle de réarmement, tout le monde a un petit sourire aux lèvres. C'est un changement culturel depuis quelques jours. Ulrike ?
Oui, absolument. Pour souligner ce que Rim vient de dire, et ça, c'est un point un peu plus fondamental. Je crois que tu as absolument raison dans la mesure où toute la discussion sur qu'est-ce que l'Europe devrait faire, sécurité, défense, etc., est toujours trop basée sur si jamais Trump est réélu, comme si l'élection de Joe Biden, ou d'ailleurs quelqu'un d'autre à un moment, ça ne poserait pas des problèmes similaires, pas les mêmes problèmes,
pas
mais bien entendu,
termes, mais
exactement. Ça ne va peut-être pas être si violent et si direct, etc., mais néanmoins. Et ce qui m'énerve le plus, il y a une parallèle à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est que de toute façon, on devrait, nous en Europe, on devrait se préparer à un monde où les États-Unis ne nous soutiennent moins, comme on l'avait dit. Et on ne le fait pas. Et pareil avec le soutien pour l'Ukraine. De toute façon, en Europe, on devrait produire plus armement, etc., en Europe, pour nous, même si jamais on n'aurait pas besoin pour l'Ukraine. Et c'est bien possible qu'on en ait besoin, dans la même mesure où peut-être qu'il faut se préparer à Trump et ça ne vient pas, ou alors ça vient et on est préparé. Et c'est ça qui m'énerve énormément, c'est que depuis des années, on sait un peu ce qui vient, et il y a plusieurs scénarios, mais dans les scénarios, les réponses sont plus ou moins les mêmes. On sait comment on peut se préparer, il faut faire plus en sécurité de défense. Et on ne le fait pas parce que, ben, je ne sais pas en fait pourquoi.
Parce qu'il y a un déni. Parce que ça coûte de l'argent et on ne veut pas faire ce genre de choix où il faut donc mettre plus d'argent sur la défense et du coup dépenser moins sur d'autres choses.
Ouais, enfin, à Berlin, j'ai même entendu genre on ne veut pas dire trop fortement qu'on discute de la possibilité que Trump soit élu parce qu'on est si proche avec Biden et ça pourrait lui faire
plus. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une crainte.
C'est une considération acceptable.
Il y a la crainte d'une prophétie autoréalisatrice. Et
oui,
donc,
ça aussi,
il y a cet effet de déni sur le risque Trump et il y a plus généralement un effet de déni ou d'absence de sentiment d'urgence sur les questions de défense. Et plus vous allez vers l'Ouest en Europe, plus ce sentiment d'urgence est affaibli, là où évidemment il est très fort. Mais je reviens sur le point des éléments de continuité. Je pense que il y a quatre points de continuité qui ont été soulignés là dans un papier qu'on a publié à l'IFRI, qui est, je fais de la pub de Mathieu Drouin, qui vient de paraître aujourd'hui sur le sommet, le sommet de Washington, donc qui sera le sommet, le 75e anniversaire de l'OTAN, qui se tiendra en juillet prochain à Washington. Quatre points qui me semblent absolument essentiels pour comprendre, parce que c'est des points qui sont indépendant de l'élection ou non de Donald Trump. Le premier, c'est la politisation aux États-Unis des enjeux de sécurité nationale, et on le voit dès aujourd'hui, alors que Trump n'est pas élu, sur la question du paquet d'aide à l'Ukraine et aux autres pays, qui est bloqué par le Congrès.
Ça, on peut dire que ça a été bloqué depuis septembre.
C'est effectivement bloqué depuis décembre, en fait. Le projet du package a été pensé en septembre, donc avec 61 milliards pour l'Ukraine, autant, enfin moins pour Israël, mais un paquet important pour Taïwan, etc. Et aujourd'hui, il est bloqué en échange de questions on va dire, de renforcement de la sécurité intérieure à la frontière américano-mexicaine. Et donc, s'il montre la volonté des républicains, mais d'une manière générale, aux États-Unis, de politiser les enjeux de sécurité intérieure. Et ça, ça se traduit systématiquement par des blocages institutionnels.
Et ça, c'est fascinant, donc, parce que pendant des années, c'était la baguette magique pour tout faire passer au Congrès américain. Il suffisait qu'on dise que ça relevait de la défense ou de la sécurité nationale, et c'était impossible de bloquer un package législatif tant que c'était à cette destination-là. Et là, ce que ça montre, c'est que ce taboulet, il est complètement tombé.
Et au contraire, il y a une forme d'inversion en disant, bah, vous voulez faire ça en politique étrangère, très bien, mais donnez-nous quelque chose en échange en politique intérieure. Et ça va se traduire de fait par une réduction des marges de manœuvre et des instruments. La deuxième chose, c'est ce dont on a parlé au début, c'est le partage du fardeau. Donc, tant que les Européens n'auront pas dépensé plus en défense, eh ben, la relation va être minée dans le champ transatlantique. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être une continuité. Le troisième point, c'est l'Ukraine. Et il est très clair aujourd'hui que le consensus aux États-Unis pour un soutien au moins majoritaire des États-Unis à l'aide militaire en Ukraine. Hein, c'est le cas aujourd'hui. Les États-Unis couvrent 2/3 de l'aide militaire en Ukraine. Sur l'aide globale, c'est les Européens qui ont la majorité, mais sur l'aide militaire, les Américains ont encore la majorité. Aujourd'hui, les Américains considèrent que c'est pas satisfaisant, et d'une certaine manière, ils ont raison, parce que il devrait être logique que l'Ukraine étant en Europe, et c'est important de le rappeler, les Européens portent au moins la majorité de ce fardeau sur l'Ukraine. Et le quatrième et dernier point, c'est le pivot vers l'Asie et ce que les Américains attendent des Européens sur l'Asie en échange d'une présence continue en Europe. Et donc ces quatre points-là...
Et depuis quand on en parle de ce pivot? C'est incroyable.
Depuis 2010, à minima, Barack Obama, Hillary Clinton, etc. Et donc ces quatre points-là, vous les avez chez les démocrates, chez les républicains. Encore une fois, la forme chez les républicains, elle sera beaucoup plus violente, beaucoup plus brutale, avec des virages et des prises de vitesse qu'on verra sans doute pas dans une administration démocrate. Mais fondamentalement, ces quatre points, ils envoient un message fondamental.
Alors après, ça pose donc la question centrale de ce qu'on a fait. Peu de choses. Parce que l'élection de Trump, on le disait, je le disais un peu en introduction, on le disait tout à l'heure. Donc tout le monde a retenu son souffle pendant 4 ans. Pendant 3 ans, le risque a été mitigé. À la fin, ça partait en cacahuète, mais Biden est arrivé et tout le monde s'est redétendu un petit peu. Donc ensuite, l'étape suivante, bon, il y a eu le Covid au milieu, mais ensuite l'étape suivante, ça a été l'Ukraine. Et l'Ukraine, la prise de conscience européenne, l'Union européenne qui se tourne vers la défense, le Titan 22, tout ce genre de choses. Mais voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que un coup de semonce comme l'invasion d'un pays frontalier de l'Union européenne par la Russie, on peut difficilement faire plus. A priori, il n'y en aura pas d'autres. Et je vois Eddie faire la tête. Il n'y aura pas d'autres coups de semonce. La prochaine fois, ça risque de se rapprocher encore plus.
Mais il y a des candidats.
Il y a d'autres endroits qui peuvent chauffer, effectivement. Mais la question, c'est où on en est aujourd'hui. Donc, on a dit montée de production, économie de guerre. On y a fait un sort à ce micro avec Renaud Bellet, etc., etc. Mais il y a un certain nombre d'initiatives qui arrivent à leur terme, parce qu'il y a plein de choses qui étaient prévues pour 2023. Un exemple parmi d'autres, c'est l'initiative ASAP, donc le Act in Support of Ammunition Production, porté notamment par le commissaire Thierry Breton. C'est tragique parce que là, ils ont pris des risques, ils ont dit on aura 1 million d'obus de 155 à la fin de l'année. Donc bah, à la fin de l'année, on peut compter, et il n'y en a pas un million. Il y en aurait plutôt 300 000, et encore si on regarde dans le bon sens.
En fait, c'était à la fin du mois de mars, c'était sur un an, donc là c'était lancé en mars, et donc c'était pour mars 2024. Mais oui, fondamentalement, de toute façon, on arrive à un tiers à peu près de l'objectif.
Bon, donc la question c'est ça, ce coup de semonce, il nous a pas, il a enclenché des mécanismes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ces mécanismes, et dans quelle mesure est-ce que ces mécanismes-là peuvent subir un détachement plus ou moins rapide de l'allié américain. Je sais pas qui.
Enfin, il y a un côté Rien. Où donc on en est où ? On en est à un niveau très insatisfaisant.
Mais culturellement incroyable pour tous ceux qui étaient là il y a 5 ans, ils disent, et c'est vrai que c'est fou le chemin qu'on a parcouru, ce qui n'est pas faux.
Mais alors j'allais justement dire ça, parce que c'est intéressant, c'est insatisfaisant quand on fait face à la réalité, parce qu'en fin de compte, on vit dans la réalité. Après, c'est vrai que dans la théorie, oui, le chemin parcouru est impressionnant et il faut le saluer. Sauf que c'est pas assez. Donc à un moment, peut-être, là ça fait un an et demi, presque deux ans, que les Européens se regardent en disant « Waouh, on a quand même fait de gros avancées et de gros progrès ». C'est vrai, mais c'est pas assez. Donc est-ce que ça compte ? Parce que ce dont on parle, c'est vraiment la sécurité de l'Europe. Ce n'est pas la sécurité de l'Ukraine. Il faut qu'on intègre ça et qu'on arrête de dire que aujourd'hui, ce que les Européens sont en train de faire, c'est vraiment juste pour soutenir l'Ukraine. Non, l'enjeu, c'est leur sécurité. Eux-mêmes. Et donc, est-ce que c'est vraiment assez ? Non, c'est pas assez, parce que tant qu'il y aura cette épée de Damoclès qui fait psychoter beaucoup de gens, en fait, le continent ne peut pas être apaisé et l'Union européenne...
Donc l'épée de Damoclès, c'est la Russie ?
C'est la Russie.
C'est le retrait américain aussi.
C'est le retrait américain. Donc il y a deux épées de Damoclès. Et l'Union européenne aujourd'hui est perçue dans le monde, pas seulement par la Russie ou les États-Unis, mais par exemple les partenaires dans les pays arabes, par l'adversaire chinois, comme le ventre mou de l'Occident et comme une cible facile et comme une cible à pas trop prendre au sérieux. Parce qu'en fait, regardez, moi je sais que dans les conversations avec les homologues arabes, ils leur disent « Écoutez, vous êtes bien gentils, mais un conflit a éclaté chez vous, à vos frontières, qui vous menace d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez pas vraiment su gérer ça tout seul. Vous avez eu besoin des États-Unis. Donc maintenant, soyez gentils, asseyez-vous, arrêtez de nous dire comment gérer notre région. » C'est comme ça, ce sont dans ces termes que les gens parlent aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on sort, et ça, il faut vraiment l'intégrer aussi, on est à la fin du cycle de vie de l'ordre international mené par les États-Unis qui a existé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Et aujourd'hui, le nouvel ordre qui va émerger, peut-être qu'il n'y aura même pas d'ordre, peut-être qu'il y aura plusieurs ordres, on ne sait pas encore, ce sera clairement quelque chose où il y a un retour de la désinhibition de l'utilisation de la force, un retour des rapports de force complètement dénudés, où on vous parle juste au niveau de qu'est-ce que vous pesez, qu'est-ce que vous amenez à la bataille, et si vous n'êtes pas au niveau, on s'en fout des efforts que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est le nouveau monde dans lequel l'Europe doit exister, et je suis désolée, mais la révolution copernicienne n'a pas encore été faite, et la révolution de la mentalité qu'il faut qu'il fasse n'a pas encore été faite.
Combien de temps est-ce qu'on peut
ça
survivre ?
Beaucoup de réactions.
Oui.
Je sais bien. Combien de temps est-ce qu'on peut survivre dans une tranchée armée de ses intentions et du chemin parcouru, Ulrike ?
En fait, a priori, t'as raison. Premier point. Néanmoins, j'aimerais quand même insister un tout petit peu plus pour ceux qui nous écoutent sur justement sur cette théorie et le chemin parcouru, parce que ça compte quand même. Et après tout, on n'est pas encore au point où on peut vraiment dire « ce n'est pas assez ». J'en ai bien peur que ce ne soit pas assez. Je suis avec toi quand on parle de la réalité. Mais néanmoins, et j'aimerais quand même mentionner que, à mon avis, et peut-être c'est aussi l'Allemande qui parle là, mais à mon avis, il y a quand même eu un changement de vue en Europe à partir du 24 février 22. Et surtout, l'Union européenne a quand même fait beaucoup de choses qu'on croyait assez impossibles il y a trois ans. Dans les papiers qu'on mentionne, il faut un peu la liste sur toutes les initiatives qu'il y a eues.
Je veux dire, on a complètement laissé tomber les deux papiers, mais c'est des papiers qui sont très intéressants, très précis, etc., mais qui indiquent toutes les initiatives qu'on peut faire pour construire progressivement. Mais en fait, tout ça, c'est des réponses quasiment techniques. et organisationnel pour faire ce qu'on appelle, ce que tout le monde appelle de ses voeux. Mais là, en fait, fondamentalement, on est au stade de qui a percuté et qui n'a pas percuté.
Exactement. Et en fait, si je peux, je crois que c'était justement dans un troisième papier, parce qu'on avait toute une discussion sur quel papier on voulait se baser, parce qu'il y en a plusieurs. Et je crois que c'est Pierre Arroche qui a dit ça dans un papier qu'il
Pierre
a
Arroche, spécialiste
publié.
Des questions de défense européenne, qui était chercheur à l'IRSAM, qui est venu plein de fois quand il était chercheur à l'IRSAM sur ces questions.
Et donc, il a publié un papier qui s'appelle Arsenal Europe en novembre 23. Et je crois que c'est lui qui a dit que cette guerre a aussi rendu plus claire la division de travail entre l'OTAN et l'UE, dans la mesure où l'atout de l'UE, c'est vraiment dans le marché commun, dans le soutien à l'industrie, dans tout ce qui est argent. Et ce que l'UE devrait faire, et c'est ça qui me choque qu'on l'a pas fait assez, c'est justement nous essayer à réétablir nos industries de guerre ou nos industries d'armement. Et en fait, c'est ça, à mon avis, de ce qu'on devrait parler le plus, c'est que cette guerre nous a vraiment montré que nos industries d'armement ne sont pas suffisantes. Et on l'a... Non, Ellie va me dire que ce n'est pas le cas. Donc, à mon avis, cette guerre nous a vraiment montré que nos industries d'armement ne sont pas suffisantes. Et en fait, on s'est rendu compte, d'après ce que je sache, genre le lendemain de l'invasion. Et ce qui me choque le plus profondément, c'est justement que pendant les deux dernières années, je n'ai pas l'impression qu'on a vraiment... Non seulement on n'a pas fait l'économie de guerre, qui est d'ailleurs, je trouve, un concept assez débile pour les nations qui ne sont pas exactement en guerre. Donc, j'aimerais pas qu'on entre en économie de guerre, mais on est loin, loin, loin de là. On n'a même pas fait des vraies commandes ou alors ça nous a pris 2 ans à faire des commandes. Et c'est ça, en fait, qui est assez inacceptable. Et c'est là aussi où, justement, comme Pierre Arroche le dit, l'UE pourrait faire le plus, parce que l'UE, c'est justement, il y a de l'argent, il y a un marché commun, enfin...
Juste pour resituer l'argument de Pierre, c'est ouais. Arsenal Europe par opposition à Market Europe, qui est l'Europe du marché. Là, ce serait une idée de l'Europe des arsenaux, avec l'idée qu'avec la capacité d'investissement, avec la capacité de coordination industrielle européenne, effectivement, on pourrait arriver à de la vraie production d'armement européenne, pas en ordre dispersé, mais un peu synchronisé. Elie Tenenbaum, qui est donc apparemment très satisfait de l'état de l'industrie de défense européenne.
Non, parce que l'état de l'industrie européenne, en fait, est à la lumière de ce que les États en font. Et je pense qu'il faut revenir là-dessus. Et pour reboucler avec les papiers, les deux papiers en tout cas qu'on a mis en avant, celui de Daniel Fiat et celui de Max Bergman, disent tous les deux la même chose. Effectivement, il y a des choses qui ont été faites. Mm-hmm. Too little, too late, dit Daniel Fiat dans son introduction, trop peu, trop tard.
Better late than never, c'est mon.
Oui, sauf que quand c'est
mieux
trop tard, mieux vaut tard que jamais, et
c'est trop crime qui évite les anglicismes, qui fait les traductions.
Traduit, mais trop tard, déjà mort. On pourrait aussi dire, et c'est ça la question.
Oui, exactement, c'est ça la question. Est-ce que c'est déjà trop tard?
Quand on est sur un sujet de survie. Vie et trop tard pour qui, pourquoi. C'est évidemment là où il y a une distinction à faire fondamentale entre ce qui se passe pour l'Ukraine et ce qui se passe pour l'Europe, du bon côté malheureusement de l'article 5. Et cette distinction, elle est essentielle aussi pour comprendre l'une des raisons pour lesquelles les choses avancent trop lentement. Et Bergman le montre bien dans le papier, il dit il y a aujourd'hui une compétition entre le besoin d'États qui ont vidé leurs stocks insuffisants, on en a déjà parlé au micro de cette émission, pour soutenir l'Ukraine, et qui doivent aujourd'hui recompléter leurs stocks, moderniser leurs propres forces armées. Le Sondervermögen, le fonds spécial décidé par l'Allemagne pour rééquiper la Bundeswehr, il est pour rééquiper la Bundeswehr, pas pour rééquiper l'Ukraine. Et donc, comment faire les deux en même temps, entre acheter des F-35, se moderniser et réorganiser ses propres forces pour la haute intensité sur le flanc de l'OTAN, et en même temps produire des munitions de 155 mm mettre pour l'armée ukrainienne. Et en fait, aujourd'hui, on a cette compétition qui est l'une des explications. Parce que bon, le constat, trop tard, maintenant, on l'a tous fait. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? C'est ça aussi que les papiers nous donnent une idée. Pour revenir sur l'industrie de défense, le papier de Bergman donne un élément assez intéressant qui est très juste quand on discute aujourd'hui avec les industriels. Je l'ai fait beaucoup en France, mais c'est très clairement le cas ailleurs en Europe. Pourquoi aujourd'hui la production de munitions a augmenté de 20 à 30% en Europe et n'a pas doublé, donc n'a pas augmenté de 100% comme ça aurait été nécessaire, voire de 200%. Parce que vous avez des industriels qui ont répondu à des commandes immédiates, pour peu qu'elles ont été faites par les États, et elles n'ont pas été faites par tous les États dans les compétences maximales, mais ces industriels aujourd'hui disent on a des commandes pour un an, donc on ne va pas changer notre outil de production pour un an. Ni même pour 2 ans, ni même pour 3 ans.
Il disait, on a des commandes pour 3-4 ans, mais pour avoir un changement, si on parle à 15-20 ans, là on change l'outil de production.
Exactement.
Si on parle à 3-4 ans et que ça redescend après, on ne va pas...
Il cite le PDG norvégien de l'industrie Nammo, et honnêtement, ça pourrait être très largement extrapolé à des industriels français, allemands ou d'autres pays dont j'ai pu entendre exactement les mêmes choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu l'état des commandes et vu la visibilité de ces commandes, la transformation de l'outil industriel d'un ordre de grandeur différent. Parce que là, on parle d'un ordre de grandeur. Si vous voulez passer d'une production de 100 000 obus par an à 1 million d'obus par an, donc une multiplication par 10, parce qu'en gros, on en est là, c'est un ordre de grandeur. Donc ça veut dire... Donc
et
là, vous allez toucher des boulets d'étranglement.
On avait des usines qui marchaient au ralenti, on les a faites marcher à vitesse normale, voire accélérée. Donc ça permet de gratter un tiers, c'est sûr. Par contre, si on veut multiplier par 10, là, il faut en construire.
Et les choses, elles sont très claires. Vous allez dans des usines de production d'obus, ça m'est arrivé, on vous montre une pièce unique dans toute l'usine. On dit tous les obus à un moment vont devoir passer par cette pièce. Et si à un moment, si je dois multiplier par 2 la cadence, il va me falloir une autre pièce. Et cette pièce, elle doit être usinée, je ne sais où. Et ça met 2 ans à arriver. Donc aujourd'hui, tant qu'ils n'ont pas investi dans le doublement de ces capacités de niveau de goulet d'étranglement, on ne changera pas ce domaine. Et ça, il y a un moment où, et on retombe sur des éléments très très fondamentaux, c'est est-ce que les États mettent l'argent ? Et donc, je termine juste là-dessus, Union européenne, structure multilatérale versus État, de toute façon, cet argent, à la fin, il vient des États. L'Union européenne et les programmes ASAP, etc., n'ont fait que de créer des incitatifs financiers pour inciter les États à mettre en disant si vous achetez ensemble, si vous faites des commandes groupées, ce type de choses, vous allez avoir un rabais, on va vous rembourser de 5%, 10%, jusqu'à 20% dans certains cas, sur les DIRPA, etc., sur un certain nombre de programmes européens. Mais fondamentalement, l'Union européenne, aujourd'hui, n'est qu'un incitateur, et c'est les États qui mettent à la patte. Et aujourd'hui, voilà, on a des États qui, finalement... On le voit en Allemagne, même si l'Allemagne paye beaucoup plus que la France, je pense, des questions sur la dérive des coûts financiers avec la Cour constitutionnelle qui a bloqué un certain nombre de dépenses extra-budgétaires pour l'Allemagne fédérale. On voit la France qui, même si elle s'en cache, aujourd'hui est très en deçà de ce qu'il faudrait en termes purement financiers de la quantité d'argent qui est mis sur la table sur ce sujet-là.
Et puis, il y a l'argent qui est mis sur la table dans une loi pluriannuelle qui arrive bientôt, et puis il y a l'argent qui est dans les commandes passées directement à des industriels, et
la loi de programmation militaire, c'est la modernisation des forces armées françaises, dans une certaine mesure avec les limites. Et l'Ukraine, elle n'est pas dans la loi de programmation militaire.
Oui, disons-le, je ne sais plus quel est le pourcentage, mais énorme, qui passe dans la modernisation de la dissuasion nucléaire française, ça n'a pas beaucoup aidé le soldat ukrainien au fond de sa tranchée. Rimantad ?
Et il y a une dimension fâcheuse, peut-être un peu honteuse, dont très peu de gens veulent parler, c'est la dimension de est-ce que l'Ukraine va devenir un compétiteur pour la production européenne. Et donc, ça freine aussi l'enthousiasme des producteurs européens à aller s'implanter en Ukraine pour monter des chaînes de production là-bas a priori, ça coûterait moins cher et puis ça serait plus efficace pour aider l'Ukraine.
Ils ont un petit débouché, quoi, naturel.
Voilà. Donc, ils ne veulent pas ça. Et là, on voit de plus en plus de réticences là-dessus. Et il y a aussi la compétition américaine européenne. C'est-à-dire que c'est vrai que les Américains, donc on a commencé l'émission là-dessus, demandent aux Européens de faire plus pour leur propre défense, mais ils n'ont pas du tout envie que les Européens arrêtent d'acheter autant d'armements aux Américains. Et en réalité, on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si les Américains veulent que les Européens fassent plus pour leur propre défense, à un moment, ils vont devoir accepter que les Européens achètent moins. Ce n'est pas dire ne plus acheter du tout américain, mais achètent moins. Et ça, ça ne passe pas aux États-Unis politiquement parce qu'il y a l'enjeu des emplois dans les États qui est un enjeu économique. Donc cette question de compétition, d'industrie, d'économie, on n'en parle pas parce que ce n'est pas la géopolitique haute, c'est pas les questions de défense qui sont nobles, mais c'est un vrai enjeu et on va pas pouvoir faire ce qu'il faut faire, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, si on n'arrive pas à régler cette question.
Je pense malheureusement qu'il y a un paquet du milieu stratégique large américain qui doit penser que bon, ils pourraient tous mettre leur argent dans un pot et acheter des F-35 avec.
Bien sûr.
Et sauf que ça passe un peu vite sur le fait qu'ils sont d'ailleurs pas du tout capables de livrer les F-35. Ils ont des limites de capacité de production qui sont aussi assez nettes. C'est pour ça que la Pologne achète au Sud-Coréen. C'est que.
Et il y a une question aussi de priorité dans les livraisons. Et ça, c'est une autre question que Max Bergman aussi relève dans son papier, c'est que même les producteurs européens, ils ont des commandes de pays étrangers extra-européens et ils vont donner la priorité aussi à ça, parce que c'est des clients qui payent.
Mmh. Ulrike ?
Oui, d'ailleurs, je trouve que cet aspect de la compétition de l'Ukraine est hyper intéressant. On n'en parle pas assez. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre si c'est Bergman ou Haroche qui recommande d'intégrer l'Ukraine davantage dans le marché d'armement européen, donc avant que l'Ukraine soit devenue membre de l'Union européenne. Donc,
et ça, je peux dire, Pierre, enfin, il l'a déjà dit à ce micro, et il y avait une époque où il avait toute une théorie là-dessus, sur le fait qu'en fait, on a tout intérêt à intégrer très fortement l'Ukraine, parce qu'il y a un vrai savoir-faire qui est en train d'être développé là-bas, et qu'intégrer ce savoir-faire aussi bien en termes de mobilisation que d'équipement que d'adaptation, ça ne peut que bénéficier très largement à l'Union européenne, loin de la concurrence avec les bas salaires et un pays en ruine qu'on présente parfois.
Et l'innovation technique est très importante là, mais c'est justement intéressant parce que l'autre côté de cette proposition, c'est justement la compétition industrielle que Rim a mentionnée, dont on ne parle pas assez. Mais deux points. Premièrement, une petite critique de Bergman, parce que je trouvais que son article, lui, il était quand même un peu trop critique de l'industrie au lieu des États et du gouvernement, comme Ellie l'a décrit, parce qu'après, c'est les États et le gouvernement qui doivent mettre de l'argent sur la table pour que l'industrie puisse produire. Et donc, cette idée que l'industrie n'a pas fait assez, je trouve ça un peu bizarre. Et d'ailleurs aussi, ce point que ouais, l'industrie va exporter, enfin va produire pour les autres, et on sera at the end of the queue, disons, je trouve ça complètement normal. Donc, a priori, c'est vraiment les États qui auraient dû et qui devrait toujours dire à l'industrie, voilà, il faut produire plus. Et d'ailleurs, des fois, l'industrie, même si l'industrie sera prête à courir les risques, assez souvent, ils n'ont même pas le droit, légalement, parce qu'ils ne peuvent pas produire n'importe quoi dans un moment sans que les gouvernements leur disent. Donc là, il faut quand même dire qu'à mon avis, les coupables, so to speak, c'est plutôt les États et les gouvernements. Et juste un point sur genre, la compétition, disons, entre ce qu'on donne à l'Ukraine et ce qu'on produit pour nous-mêmes. Ici encore, étant donné qu'il y a pas mal de choses qu'on aurait dû produire de toute façon, soit pour nous, soit pour l'Ukraine, si jamais on aurait commencé au moment où tous les experts ont dit qu'il faut commencer, on aurait quelque chose pour nos arsenaux et pour l'Ukraine. Et d'ailleurs, Max Bergman le dit assez souvent, « Whatever Ukraine needs to fight Russia, it's also the type of equipment that Europe should have on hand as well. » Donc assez souvent, on aurait pu produire des choses, soit si jamais l'Ukraine en a besoin, ou alors, si la guerre miraculeusement se termine demain ou il y a un an, on aurait eu besoin de ça de toute façon.
Oui, parce que mentionnant que vraisemblablement les obus de 155, on en trouvera une utilité tôt ou tard.
Alors, et ça demande aussi, de ce point de vue-là, une vision stratégique de long terme sur à quoi va ressembler l'Europe en tant qu'espace stratégique dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et pourtant, il y a suffisamment de gens qui sont là pour nous rappeler que la Russie ne va aller nulle part. Il y aura toujours une Russie qui sera à l'est de l'Europe, qui sera pour les années prévisibles hostile, voire agressive vis-à-vis de ce qu'est l'Europe, de ce que sont les valeurs de l'Europe, et dans une conception, on va dire, confrontationnelle vis-à-vis de l'Europe. L'Ukraine sera soit en guerre durablement, soit sur un front plus ou moins actif qui demandera de manière générale une quantité de moyens militaires importants. Pourquoi est-ce que c'est la Corée du Sud qui aujourd'hui est l'un des principaux pourvoyeurs en obus de 155 de l'Ukraine? Parce que la Corée du Sud, depuis 50 ans, elle est confrontée, sans pour autant être dans une guerre active, à un adversaire qui a lui aussi à la fois une attitude hostile, des moyens et d'une manière une ambition au sud. Donc la Corée du Sud s'est dotée, pourtant c'est un pays en paix, d'une industrie de défense qui était capable de produire cette masse de munitions qui aujourd'hui fait défaut à l'Europe. À bien des égards, l'un des rapports que l'Europe pourrait avoir malheureusement sur sa frontière Est, ça pourrait ressembler un petit peu à quelque chose de cet ordre-là. Je termine juste sur les chiffres, puisque Daniel Fiod, dans son article, nous propose des chiffres. Il dit dans sa conclusion, de manière assez intéressante, les Européens collectivement doivent dépenser 300 à 400 milliards d'euros en défense par an. Effectivement, si vous regardez le PIB de l'Union européenne, 14 000 milliards, vous faites le chiffre de 2%, qui voilà, est globalement celui autour duquel on devrait tous tourner, vous tombez sur 280 milliards, donc 300 milliards d'euros à la louche, et ce que coûte la guerre en Ukraine en soutien militaire, c'est 100 milliards par an. Donc effectivement, vous arrivez à 300 plus 100. Et je pense que c'est ce type de chiffre qu'il faut quand même tous avoir en tête pour atterrir sur Terre et voir si on y est ou on n'y est pas. Aujourd'hui, on n'y est pas.
Et 2%, c'est quand même plutôt pendant le temps de paix.
Bien sûr.
Donc les 2%, c'est pas comme si c'était le maximum. C'était,
oui, mais Ulrike, vous vous rendez pas compte du chemin qu'on a parcouru. Okay.
Mais juste une chose, un commentaire sur le parallèle avec la Corée du Sud. La différence, c'est qu'en Europe, ceux qui nous rappellent tout le temps que la Russie va toujours être là et qu'elle va pas changer de géographie, c'est les gens qui pensent que cette Russie, c'est une Russie des Lumières, c'est une Russie avec qui on va faire de grands traités, qui va devenir une alliée et avec qui on va pouvoir construire une place pour l'Europe entre les États-Unis et la Chine. Ce ne sont pas des gens qui pensent comme la Corée du Sud pense quand il s'agit de la Corée du Nord. Et c'est ça vraiment le problème.
Bah, tu es bien le dernier livre d'Emmanuel Todd.
Mais ce n'est pas juste Emmanuel Todd. Ça va bien au-delà. Et c'est ça un peu le problème. C'est qu'on retrouve ça dans des rangs de gens qui devraient, enfin, qui sont aux affaires stratégiques de pays importants, que je ne vais pas nommer, dans l'Union européenne. Donc c'est ça en vrai le problème. C'est la conception de la posture de l'Union européenne et de l'Europe en général face à ses adversaires, et nommer ses adversaires et les traiter en tant que tels, ça ne veut pas dire aller faire la guerre. On n'est pas dans un moment, on n'est pas en train de dire qu'on va aller confronter la Russie dans une guerre. Juste, je dis une chose, quand on parle de ces chiffres, ça peut donner le tournis à des gens qui ne sont pas nécessairement des gens qui travaillent dans le monde de la défense. Il faut toujours rappeler que les investissements qu'on fait dans le secteur de la défense, ce n'est pas à fond perdu et ce n'est pas de l'argent qu'on jette par la fenêtre. En fait, si on n'a pas une défense digne de ce nom et une manière de faire en sorte que l'Union européenne est en sécurité, la prospérité qui existe dans l'Union européenne depuis des décennies, elle est en jeu. Et donc, c'est tout l'écosystème économique, c'est la paix que tout le monde a connue depuis la Seconde Guerre mondiale qui est en jeu. Et donc, ça touche chaque personne, qu'il soit dans le monde stratégique ou pas.
Et parce que si on n'a pas de défense, on n'a rien, et il n'y a qu'à voir l'état de l'économie ukrainienne en ce moment. Bon,
c'est un point qui est évoqué d'ailleurs dans l'un des articles sur le coût d'opportunité. C'est-à-dire, que coûterait un succès de la Russie en Ukraine et les conséquences en Europe, on finirait par payer bien plus cher.
Et en plus, juste pour finir avec cette idée, c'est aussi des investissements dans notre industrie et donc des investissements aussi dans notre expertise technologique et de l'argent qui, a priori, atterrit dans nos économies aussi. Donc, c'est pas comme si, comme tu disais, exactement, on ne jette pas cet argent par la fenêtre.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alors simplement pour poser la question, et je vais faire un peu le franchouillard de service, mais est-ce que tout ça ne valide pas un peu la position française depuis quelques années, voire depuis un demi-siècle? C'est-à-dire, cocorico, on l'avait bien dit, autonomie stratégique, souveraineté, etc., etc., il fallait renforcer, faire une Europe de la défense. Est-ce que avec 20 ans de retard, le reste des Européens ne se mettent pas à disons se familiariser avec ce que la France disait.
Mais c'est l'américaine autour de cette table qui a commencé l'émission en parlant de ça. Moi, je reconnais que oui, effectivement, même sans revenir jusqu'à De Gaulle, dès 2018, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a répété constamment qu'il faut se faire un truc de l'Europe de la défense, il faut avoir l'autonomie stratégique. Mais je répète, il a bien dit ça. Il a bien théorisé le concept, il avait bien vu, mais les actes n'ont pas suivi. C'est-à-dire que même si on regarde juste la situation en France, la situation française, la France ne s'est pas dotée des moyens, ni industriels, ni politiques, au sein de l'Union européenne, pour ce mouvement vers l'autonomie stratégique soit vraiment enclenché. Et donc, d'un côté...
C'était bien de dire qu'on avance tous ensemble, mais il aurait peut-être fallu commencer à avancer plutôt que tout le monde se regarde en chien de faïence. Il aurait peut-être fallu un peu faire un truc.
Et à investir aussi donc, dans les capacités industrielles et militaires, et trouver un moyen de monter des coalitions de bonne volonté au sein de l'Union européenne, parce que tout le monde, les 27, n'allaient pas tous se mettre d'accord d'un coup. Après... Again, je ne pense pas que ce soit juste Emmanuel Macron qui soit responsable. Il y a aussi un problème de prise de conscience parmi les partenaires européens qui n'ont pas voulu, voir parce qu'ils faisaient des procès d'intention à Emmanuel Macron et à la France, il faut juste le dire. Il y avait aussi le déni. Ils pensaient que les États-Unis n'allaient jamais lâcher et que le changement n'était pas déjà en route et en marche aux États-Unis.
Sur cette question française, elle est fondamentale parce qu'effectivement, il y a une grille de lecture gaulliste du gaullisme, on va dire, évolué, pas celui qu'on entend parfois un peu bêtement anti-américain, mais qui est celui d'une analyse qui avait été faite par De Gaulle, que les intérêts des Américains ne seraient pas systématiquement alignés et que, in fine, il fallait quand même pouvoir compter sur ses propres ressources pour assurer la défense des intérêts. Le problème, c'est que la manière dont les Français ont porté cette ligne en Europe, surtout à l'époque du mandat Trump 1, avait une espèce de petite musique, on vous l'avait bien dit, effectivement, de schadenfreude, de joie de voir...
Schadenfreude, pour ceux qui parlent aussi bien allemand, c'est la joie mauvaise.
La joie mauvaise de voir les Allemands, ceux qui dépendaient trop des Américains, être complètement désorientés, désemparés, etc. Et ça, ça n'a pas produit de solidarité stratégique en Europe. Au contraire, ça, en fait, a renforcé une forme d'isolement de la France, une forme d'image que, ah mais oui, mais vous les Français qui vous abritez pour vos intérêts vitaux et uniquement vos intérêts vitaux derrière la dissuasion, finalement, vous n'apportez pas ces solutions. Donc, il faut absolument qu'on se garde aujourd'hui, à mon avis, en tant que Français, dans cette perspective de l'élection américaine, d'attendre, et je dois le dire, c'est un risque que je sens de plus en plus, d'attendre de voir Trump revenir au pouvoir et de pouvoir rejouer finalement cette scène avec cette voix mauvaise qui ne va pas du tout faire avancer les choses, mais au contraire finalement accentuer la division des Européens. Donc le sujet aujourd'hui, c'est au sein de l'Alliance Atlantique, qu'est-ce que nous pouvons faire pour d'abord consolider cette alliance en dépit des risques et des aléas de ce qui peut exister outre-Atlantique. On parle aujourd'hui de faire survivre l'OTAN à Trump et éventuellement un retrait, je ne crois pas trop un retrait, on pourrait parler des scénarios, mais plutôt un désinvestissement massif des États-Unis de la structure.
Je veux dire, ça c'est un concept, c'est aussi un des... Je vais mettre tous les articles dont on a parlé. Il y aurait une grosse revue de presse, mais c'est d'un ancien ambassadeur d'Allemagne aux États-Unis, donc Peter Wittig, qui écrivait dans Foreign Affairs en octobre 2022, How to Trump-proof the Transatlantic Alliance, c'est comment imperméabiliser à Trump l'alliance transatlantique. Et le sous-titre était First Europe must realize that he might return. D'abord, l'Europe doit réaliser qu'il pourrait revenir. Donc maintenant, je pense qu'on a assez bien réalisé. Par contre, comment effectivement Trump-proofer cette alliance? Comment établir des mécanismes? Donc un appellerait ça un pilier européen, d'autres appelleraient ça une Europe de la défense. En tout cas, un truc qui soit capable de résister à un des intérêts probablement prompts et massifs des États-Unis pour tout ça, ça reste la question du moment. Ulrike?
Ben, à mon avis, et justement pour revenir sur ta question initiale, à mon avis, sur l'analyse, Macron a eu raison. Franchement, je trouve qu'il faut quand même dire que c'est lui... le gouvernement français, si vous voulez, mais vraiment lui, qui a poussé l'Union européenne et d'ailleurs l'Allemagne vers le concept de la souveraineté européenne ou alors l'autonomie stratégique européenne. Mais le grand problème, c'est justement qu'en Europe, les Européens, ils pensent que la France et Macron, ils ont une sorte d'arrière-pensée, que ça leur sert à eux, à la France, et ce n'est pas genre quelque chose pour toute l'Europe. Et à mon avis, c'est vraiment ça le grand problème aussi pour Trump-proof l'Europe, c'est qu'il y a un manque de leadership légitime et accepté en Europe. Ça ne peut pas être Macron et la France, parce qu'on a l'impression qu'il y a des arrière-pensées. Ça ne peut pas être l'Allemagne non plus. Et alors qui? Enfin, je ne sais pas, ça ne va pas être la Belgique non plus. Et donc, il nous faut toujours, et on voit ça d'ailleurs aussi en Ukraine, il nous faut toujours cet acteur extérieur, the big brother des États-Unis, qui nous donne un peu un cadre dans lequel on peut agir. Et c'est ça vraiment le problème. Parce qu'a priori, oui, je trouve que l'idée d'une sorte de souveraineté européenne, qui a priori est basée sur ce pilier européen dans l'OTAN. Je suis un grand fan de l'OTAN, je crois que c'est très bien, mais pour moi, les deux concepts ne sont pas, c'est pas en compétition. C'est exactement là où on devrait aller, et il y avait cette pensée aussi en 2016 en Europe, mais il n'y a personne qui peut vraiment guider l'Europe dans sur ce chemin, et c'est ça qui nous pose le plus problème.
Mais alors, pour tout ça, il y a une échéance, donc vous l'avez mentionné tout à l'heure, Ellie, c'est le sommet de Washington, donc qui aura lieu en juillet, qui présente l'avantage et l'inconvénient d'être le grand Raoult pour les 75 ans de l'Alliance, ce qui est un avantage parce que tout le monde va quand même en parler, ce qui est un inconvénient aussi, enfin, tout le monde va en parler, tout le monde va y prêter attention, ça va pas être comme certains sommets de l'OTAN qui passaient un peu à l'oubliette, ou dans les oubliettes. Le risque, c'est que tout le monde se contente de jouer du violon sur les 75 ans et l'alliance plus forte que jamais, etc., et qu'on ne décide pas grand-chose. Donc voilà, la question, c'est comment cette structure, quelle OTAN, peut là prendre des décisions. Et c'est pas facile, parce qu'en même temps, il faut pas que les États-Unis se désinvestissent dès maintenant, quand il y a encore en plus Joe Biden. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer faire un peu évoluer la structure, la géométrie de l'Alliance là, dans les mois qui viennent, pour quand même se fournir un peu des garanties de sécurité face à ce qui pourrait arriver en fin d'année.
Bah déjà, il faut que les alliés à l'Est, en Europe, laissent tomber cette question de vouloir imposer une invitation à l'Ukraine de rejoindre l'OTAN au sommet de Washington, qui continue de faire partie des idées sur lesquelles certains pays à l'Est font une fixette. Ça ne va pas se passer. L'administration Biden est très claire là-dessus. Ils ne vont pas bouger, d'autant plus que là, le contexte entre la guerre Israël-Gaza et le contexte des sondages aux États-Unis, Biden n'est pas du tout dans une position où il peut faire passer ce genre de choses à 4 mois de l'élection présidentielle américaine. Faut pas l'oublier. Le sommet a lieu en juillet, l'élection américaine a lieu en novembre. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut que les Européens...
Pourquoi ils y tiennent tant que ça? Ça, c'est une question.
Parce que la seule... Enfin, eux, ils se disent, eux, ils n'ont pas été attaqués par la Russie aujourd'hui que grâce à l'article 5 et à la garantie de sécurité effectivement américaine. Et ils se disent, pour arrêter tout ça, il faut qu'il y ait une garantie de sécurité américaine, article 5, à l'Ukraine. C'est un gros sujet de débat sur lequel on peut revenir à un autre moment, mais voilà, ça c'est leur posture, les Américains ne sont pas d'accord. Ils opposent des questions très précises et techniques sur comment est-ce que ça pourrait fonctionner exactement pour éviter une troisième guerre mondiale. Enfin, c'est dans ces termes qu'ils parlent.
Et fondamentalement, les Américains veulent réduire leurs engagements et la manière dont ils peuvent être liés globalement partout dans le monde, à l'exception de la zone pacifique, où ils veulent pouvoir être le plus concentrés.
Et le second point donc, pour le sommet de Washington, le second enjeu, c'est que les Européens doivent à un moment arriver avec une position qu'ils peuvent défendre sur la Chine, parce que l'administration Biden veut que le rapport de l'Alliance Atlantique à la Chine soit sur la table pendant le sommet de Washington. Et on sait très bien que, par exemple, la France n'arrête pas de répéter « Je suis désolée, mais la Chine ne fait pas partie des sujets de l'OTAN parce que c'est une alliance atlantique et non pas pacifique. » Donc ça, c'est bon, l'argument de base. Mais c'est vrai qu'en Europe, il n'y a pas vraiment un consensus sur comment se positionner sur cette question. Ça, ce sera le deuxième enjeu.
Bah, la seule voie de consensus là-dessus, enfin, c'est le truc qui est dégagé, c'est qu'il faut que les Européens montent en gamme pour que les États-Unis soient un peu libérés, mais ensuite, quand on regarde un peu de près ce que ça voudrait dire, ça, bon, on est dessus depuis une heure, mais personne n'y arrive.
Non, mais ce qui est certain, et je pense que c'est un message aussi pour la France, c'est-à-dire que si on veut compliquer toute décision irrationnel sans doute d'un président américain de se retirer ou de se désinvestir. Encore une fois, je pense que le scénario le plus crédible, c'est celui d'un désinvestissement plutôt que d'un retrait de l'Alliance. C'est en étant collectivement, en tant qu'Européens, à la hauteur des enjeux stratégiques. Et là, finalement, le débat, il sera plus compliqué et ça renforcera naturellement, d'une certaine manière, une forme d'équilibre et de solidarité transatlantique. Et pour ça, en fait, c'est un réinvestissement de l'Alliance et non pas une prise de distance pour construire une forme d'alternative. Il n'y aura pas d'alternative européenne au sens Union européenne du terme ou sous un autre sens, avec moins d'OTAN. Et ça, c'est quelque chose que fondamentalement, en France, on a du mal à accepter. On pense à cette logique de vase communicant. Aujourd'hui, l'Alliance Atlantique est un cadre indépassable pour 80% des alliés, sinon 90% des alliés. Et on ne recréera cette confiance en la France en tant que partenaire et en l'Europe dans sa capacité que si elle investit pleinement les structures qui existent aujourd'hui dans un cadre transatlantique. Ensuite, est-ce que si ces structures fonctionnent, est-ce qu'elles peuvent fonctionner avec une implication moindre des Américains? C'est possible. En réalité, vous avez des états-majors, vous avez un certain nombre de points qui peuvent fonctionner. Les Américains aujourd'hui sont essentiels sur deux choses, et deux choses essentielles, mais uniquement, qui est la dissuasion élargie nucléaire, Donc ça, évidemment, si les Américains le retirent, ça va changer beaucoup de choses au contenu de l'article 5, mais ils n'en sont pas forcément là. Et puis, un certain nombre de ce qu'on appelle des enablers, des facilitateurs en termes de commandement et de contrôle, des satellites, des avions à wax, du ravitaillement en vol, un certain nombre de capacités de renseignement, évidemment, qui permettent de faire fonctionner les opérations. Et donc ça peut être des choses sur lesquelles les Européens doivent travailler.
Mais rappelons, le C2, par exemple, il n'y a pas d'alternative au C2 américain à l'heure actuelle pour les pays européens. C'est en fait l'architecture donc, de command and control, de coordonner les forces, et si jamais il fallait faire la guerre, il y a besoin des Américains. Donc, effectivement, les Allemands essayent de monter en gamme. Il y a plein de gens qui essayent de monter en gamme là-dessus. On n'y est pas encore dans le cadre d'une possible guerre. Du coup, on peut clore un peu le débat et puis passer à la dernière, toute dernière partie qui, on a dit qu'on ferait périodiquement des coups de cœur ou coups de gueule. Un chacun à la fin de l'émission. Je ne sais pas qui veut commencer.
Bon, je vais commencer.
Ouais.
Bon, c'est pas très joyeux en ce moment, donc c'est comme plutôt un coup de gueule. Et mon coup de gueule, il rejoint peut-être un peu notre conversation. C'est plus globalement le manque de vision stratégique réelle de la part des États-Unis. On voit qu'en fait, ils sont plus dans une posture de réaction qu'autre chose, en particulier au Moyen-Orient, avec là, on voit des conséquences assez importantes où l'axe que l'Iran a monté arrive à utiliser des leviers de pression et à mettre les États-Unis dans un coin et à forcer les États-Unis à être plus dans la réaction que dans à dicter la cadence des choses. Et donc, mon coup de gueule cette semaine, c'est cette sorte de pièce de théâtre que l'administration Biden a fait depuis une semaine en niant qu'ils étaient en train de revoir leur posture militaire en Syrie et en Irak, alors que il est clair, et on le sait d'après des conversations qu'on a avec des gens qui font partie de ces conversations à Washington, qui sont en train de revoir leur posture et leur présence, la présence de leur base, que ce soit en Syrie ou en Irak. En partie parce que depuis le 7 octobre, donc l'attaque du Hamas contre Israël, ils se font taper dessus tous les jours par les milices liées à l'Iran, donc en Irak et en Syrie, et ça les
pousse. Ça date pas du 7 octobre, hein. Ça fait longtemps déjà que c'est.
Non, mais depuis le 7 octobre, on est passé à une cadence vraiment journalière avec des frappes très très intenses. On est passé à une autre cadence, et c'est pas ça le game changer. Mais c'est vrai que ça fait penser beaucoup de gens à Washington, ça a accéléré la réflexion sur est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester encore là. Le problème, c'est que ça va être perçu et présenté par l'Iran ses alliés comme on a fait plier les États-Unis et on les a forcés à se retirer. Donc je reviens au premier truc, c'est qu'il y a le manque de cadre stratégique des États-Unis dans cette région qui aura des conséquences pour l'Europe, qui aura des conséquences pour les Arabes, qui aura des conséquences même pour les États-Unis dans leur projection de pouvoir.
Élie, est-ce que vous avez trouvé ? Parce que au début de l'émission, on n'avait pas prévu trop en amont, là, et Élie était en pleine sèche. Est-ce que vous êtes énervé depuis tout à l'heure ?
Je me suis énervé tout à l'heure. J'ai effectivement un coup de gueule sur la visite de Mahamat Deby à Moscou, donc du président tchadien, auprès de Vladimir Poutine, qui incarne un petit peu, comme ce que Rim disait, sur le Moyen-Orient, encore une fois, à la fois le manque d'attractivité aujourd'hui et de vision stratégique des Occidentaux en général dans des régions du monde où historiquement il y avait une présence, il y avait des partenariats. Aujourd'hui le Tchad était finalement la dernière pièce du puzzle africain dans lequel les Russes n'étaient pas totalement intégrés. Il faut voir évidemment quels seront les débouchés de cette visite, mais d'une manière générale il s'est c'est un énième coup d'alarme sur notre capacité collectivement à offrir quelque chose aux pays africains qui soit les détourne, soit en tout cas les arrime d'une manière ou d'une autre à des partenariats avec les Européens, avec les Occidentaux, face à honnêtement des compétiteurs qui sont particulièrement néfastes, vénéneux, et pour la démocratie, et pour la société civile, et pour les positionnements stratégiques sur le continent.
Donc, coup de gueule contre Moscou.
On va dire, c'est un peu facile. Hein. Facile,
controversé.
Facile. Non, mais c'est aussi contre nous-mêmes, et puis un petit peu contre le président tchadien aussi.
Oui, donc malheureusement, moi aussi, j'ai un coup de gueule, mais un coup de gueule contre une phrase. Une phrase qui vient d'un article dans Politico écrit par Nathalie Tocci, qui d'ailleurs est très bien. Nathalie Tocci, c'est une experte italienne qui est la directrice, je crois, d'un think tank important italien qui a travaillé pour l'Union européenne, etc. etc. Et donc, elle a écrit un article sur la mer Rouge et le fait que l'Union européenne devrait monter une mission en mer Rouge, ce qui d'ailleurs est discuté et peut-être qu'on va discuter de ce sujet aussi un des séjours dans le podcast. Mais elle a écrit cette phrase. La mission, it would show that Europe exists and is doing something. Donc, cette mission, ça montrerait que l'Europe existe et qu'elle fasse quelque chose. Et je trouvais ça tellement bas. Comme genre seuil à franchir,
les attentes sont basses.
Les attentes sont tellement basses que cette phrase m'a vraiment fait rire et pleurer en même temps parce qu'on est arrivé là. Il faut montrer que l'Europe existe et fait quelque chose. Donc coup de gueule contre cette vue, disons, du monde ou de l'Europe, bien que Nathalie a peut-être raison.
Et moi, je vais terminer aussi par un coup de gueule. C'était, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas prévu. Ça me demande plus de travail d'avoir des coups de cœur que d'avoir des coups de gueule.
C'est vrai, en fait.
Parce que c'était un peu dernière
dans ce
minute.
Contexte, c'est vrai.
Voilà, donc dernier coup de cœur. Moi, c'est contre le réarmement démographique de la natalité. Alors, c'est pas contre le concept. D'ailleurs,
Alexandre n'aime pas les enfants.
C'est ça.
Il l'a beaucoup dit à son micro.
Je suis jeune papa, donc comme on dirait dans Starship Troopers, I'm doing my part. Néanmoins, c'est plutôt sur le parti rhétorique et sur le réarmement et sur les guerres, tout comme c'est vrai pour l'économie de guerre, etc. Et c'est l'impression que, bon, c'est approprié à cette présidence actuelle, mais que globalement, depuis le Covid, on n'est jamais sorti de la métaphore guerrière, la guerre au virus, etc. Et pour des raisons assez évidentes, qui est que c'est un moyen de matérialiser rhétoriquement l'intensité qu'on veut essayer le côté soudé qu'on veut essayer de donner à la nation. Mais le problème, c'est que quand on se sert de la métaphore guerrière pour absolument tout, quand la guerre est partout, elle est nulle part. Et je pense qu'il serait pas inintéressant de se calmer un peu sur, disons, le champ lexical de la guerre et des armées pour des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Et que voilà, on pourrait être un peu moins lourd là-dessus parce que la guerre, quand il y a la guerre, on le sait. Et voilà, là, faut arrêter de parler de guerre à tout bout de champ parce que ça rend service à personne. Voilà. Merci beaucoup pour cette donc deuxième édition du Casque et la Plume, Rimam Tazali Tenenbaum et Ulrich Frank. On reviendra, je pense, dans un mois ou deux. Je mettrai évidemment tous les liens vers tous les articles nombreux qu'on a cités en référence, dans la description de l'épisode. Et d'ailleurs, on peut prendre des suggestions aussi pour les futurs thèmes de débat. Ce sera avec grand plaisir.
Absolument.
Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Merci, au revoir.
Merci.
C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. On vous rappelle que toutes les remarques et commentaires et notes et appréciations sont bienvenues et toujours très intéressantes par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon ou bien sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.